BW. Vue d'Allemagne.
Olaf Scholz steht vor schwierigen Gesprächen.
Finden wir eine gemeinsame Lösung, von der wir überzeugt sind, dass sie gut ist für das Land? Das sind die Dinge, die jetzt geklärt werden müssen in den Sondierungen.
In den Verhandlungen wiederfinden. Grüne, FDP und SPD wieder zusammen.
Die linke Denn SPD, Grüne und FDP sind vor knapp einer Stunde zu Sondierungen für eine Ampelkoalition zusammengekommen.
Koalition SPD, Grünen, Les Verts, le FDP, des discussions, des réunions, d'autres discussions. C'était en 20 secondes le résumé de l'actu politique qui domine encore toute l'actualité en Allemagne en ce moment. Alors on va vous épargner les détails de ces négociations de coalition pour former un gouvernement après les élections du 26 septembre dans ce magazine. D'autant que cela bouge beaucoup et très vite en ce moment. Mais tout de même, si vous voulez en retenir une chose, le plus important en une phrase, c'est l'Ampelkoalition, la coalition feu tricolore qui semble désormais la plus probable pour l'Allemagne. On l'appelle ainsi car elle serait rouge, orange, jaune et verte, comme un feu de circulation donc, d'où son nom. Les trois couleurs sont celles des partis, en rouge les sociaux-démocrates du SPD, en orange, jaune les libéraux du FDP et en vert les écologistes de Die Grünen. Coalition pas simple, tant les idées de ces trois partis sont parfois à l'opposé sur certains points. Les négociations sont donc en cours. On vous passe, je vous le disais, les bruits de couloir, les conférences de presse de tous côtés et les réunions à répétition. On suit tout cela et on vous en parle dès qu'une décision officielle est annoncée. Et en attendant, aujourd'hui, on se penche sur un tout autre sujet dans ce magazine, le début du procès de Josef Schütz, le plus vieil accusé de crime nazi. Vous écoutez Vue d'Allemagne, je vous souhaite willkommen, je vous souhaite la bienvenue. Los geht's, c'est parti. Il se dit innocent et pourtant malgré ses 100 ans, Josef Schütz était bientôt au tribunal tout récemment et le sera encore une vingtaine de fois d'ici le mois de janvier prochain. Des audiences étalées dans le temps et de 2 heures maximum vu son âge. À 100 ans, Josef Schütz est donc le plus vieil accusé à devoir répondre de crimes nazis devant la justice allemande. Ce qu'on lui reproche, sa place de sous-officier de la division Totenkopf, tête de mort entre 1942 et 1945. Un poste qui pourrait l'avoir rendu complice dans le meurtre de 3518 prisonniers lorsqu'il était au camp de concentration de Sachsenhausen entre 1942 et 1945. Des prisonniers qui étaient dans ce camp souvent juifs, opposants politiques ou homosexuels. Alors en résumé, pour bien comprendre, on reproche à cette personne, cet accusé aujourd'hui, d'avoir été un maillon de la chaîne de la mort, malgré son poste sans beaucoup de responsabilité, de n'avoir en fait rien fait contre ça, ce qui se passait à ce moment-là dans les camps. « Je ne connais rien à ce sujet », a répondu Josef Schütz au premier jour d'audience où il est arrivé à pied à l'aide d'un déambulateur la semaine dernière. Il s'est même plaint d'être le seul dans le box des accusés et son avocat a d'ores et déjà dit qu'il ne s'exprimerait pas sur les faits, ce qui a provoqué colère et déception des parties civiles. Comme Leon Schwarzenbaum, dans son fauteuil roulant et du haut de ses 100 ans, il a survécu à Auschwitz et est encore en vie. Il attend beaucoup de ce procès malgré le fait qu'il arrive des années après les faits.
Je suis l'un des derniers survivants d'Auschwitz. Et je veux que cet homme, s'il est reconnu coupable, et j'espère qu'il le sera, qu'il aille en prison.
Leon Schwarzenbaum est l'une des dernières victimes directes encore en vie, mais son témoignage est rare. Les parties civiles à ce procès sont souvent des descendants de victimes, les victimes elles-mêmes étant souvent mortes pendant la guerre ou de vieillesse depuis. On l'a dit, donc une vingtaine d'audiences de 2 heures doivent se tenir d'ici janvier, dès la semaine prochaine pour les suivantes. Dans le même temps, 8 autres dossiers d'anciens SS sont actuellement examinés par différents parquets allemands. Alors pourquoi en ce moment et pourquoi si tard après la guerre? Eh bien, cela est lié à l'histoire et à la justice.
DW.
En fait, plusieurs procès ont eu lieu directement après la guerre en Allemagne et ailleurs, puis cela s'est tassé au fil du temps. Il était souvent en plus très compliqué juridiquement de prouver l'implication directe de suspects dans un assassinat spécifique. Jusqu'en 2011 et le procès John Demjanjuk. Cet ancien gardien du camp de Sobibor est à l'époque condamné à une peine de prison pour complicité de meurtre en tant que gardien. Donc, c'est un tournant. La justice permet ainsi, depuis, de condamner toute personne ayant joué un rôle dans les camps d'extermination, même si son poste, sa fonction n'était pas décisive à l'époque pendant la guerre. C'est cela qui explique en partie les procès des dernières années. La justice s'est lancée depuis 2011 dans la recherche de toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans les crimes nazis dans les camps. Des procès souvent très médiatiques, mais pas toujours simples à organiser près de 80 ans après les faits. D'ailleurs, certains suspects sont morts avant le rendu de certains jugements. Ces dernières années, 4 anciens SS ont été condamnés pour complicité de meurtre. El Mayer Hayamin, prière juive notamment dédiée aux victimes de la Shoah. De l'Allemagne et d'Israël, on prend maintenant le chemin du Liban pour la deuxième partie de ce magazine. En août, l'année dernière, les attentions du monde entier étaient tournées vers Beyrouth après les explosions là-bas dans le port qui feront 218 morts, vous vous en souvenez peut-être. Depuis, les journalistes internationaux sont souvent repartis, mais les crises du pays ne sont pas terminées. Crise financière, crise sociale, le pays s'effondre et les habitants sont les premiers à en payer le prix. À Beyrouth, notre correspondante Clotilde Bigot nous emmène à la rencontre justement des habitants et de leur quotidien.
Imagine you're living in a country with people that are supposed to protect you and take care of you.
Imagine, tu habites dans un pays avec des gens qui doivent te protéger. Ces gens ramènent 3000 tonnes d'explosifs. Ils détonnent, détruisent toute la ville, tuent des centaines de personnes, rendent des centaines de personnes SDF. Puis les autorités viennent et disent « Oui, on savait, mais bon... » Et ces mêmes personnes sont toujours en poste. Et on ne peut pas les déboulonner, car quand on descend dans la rue, ils te battent, te traînent en prison, t'interrogent. Ils te noient dans du gaz lacrymogène. Et tu dois rester là et les regarder tous les jours, aller à la télévision et parler. Voilà ce que ça fait de vivre ici.
That's what it feels like.
Omar a 34 ans. Ce Libanais travaillant dans la musique vit la crise au jour le jour. Ce pays, il l'aime et refuse encore de le quitter malgré son passeport canadien. Omar nous emmène chez son épicier, Joseph, qui gère son magasin depuis 50 ans. Joseph a 3 enfants et travaille dur pour pouvoir payer leurs études. Les prix des produits ont drastiquement augmenté depuis quelques mois. En cause, la dévaluation de la monnaie locale, la livre libanaise, face au dollar. Alors qu'auparavant un dollar valait 1500 livres, aujourd'hui le dollar vaut environ 20 000 livres et les produits achetés en dollars reviennent donc beaucoup plus chers. Omar souhaite avoir le prix des lentilles, mais celui-ci a déjà changé 5 fois. Alors Joseph sort sa calculatrice et, facture à l'appui, il calcule combien il a acheté les lentilles en livres libanaises.
Les lentilles, comme tu m'as demandé, c'est 1,40 $, on multiplie par 18,5. Cela me revient à 26 000 livres libanaises. C'était beaucoup moins avant. Avant, je vendais les lentilles à 21 500. C'est complètement différent maintenant.
Joseph grignote alors sur son profit pour éviter de trop augmenter les prix et voir des clients qui ne peuvent plus acheter ses produits. Mais alors que Joseph explique les difficultés financières, un autre problème quotidien surgit. D'un coup, tout s'éteint autour de nous. Il est 15 heures pile.
Donc l'électricité vient de s'éteindre.
Pour une heure et demie. Plus tard, par contre, je n'en sais rien.
Mais pour le fromage et le labné, par exemple, comment vous faites sans électricité?
Personne n'ouvre le frigidaire pendant la coupure.
Et donc, ça fonctionne?
Tu peux avoir le fromage pendant 6 heures sans électricité. Mais il y avait beaucoup d'endroits qui, eux, ont arrêté de vendre du fromage car ils avaient des coupures de 12 heures. Et là, ce n'est pas possible.
Deuxième étape de notre périple à travers Beyrouth pour comprendre les difficultés, la station-service. Dans un pays qui n'a que très peu de transports en commun, les Libanais comptent sur leur voiture personnelle ou sur des taxis. Ici, les prix ont quintuplé en l'espace d'un an, comme l'explique Abdo, qui vient faire le plein d'essence pour sa mobylette.
Avant, je faisais le plein pour 5 000. Maintenant, c'est 65 000 livres.
Abdo a de la chance, c'est sa compagnie qui paye les factures d'essence. Carla, elle, subit directement la hausse. Elle a beau faire partie d'une classe aisée, elle a tout de même dû adapter ses habitudes à cette nouvelle réalité.
Il y a quelques mois, au début, 80 000 livres, c'était pour faire le plein. Maintenant, c'est à peine le quart, même pas, c'était là, 160 000. On fait plus attention. Quand on a des trajets qui sont longs, on fait du carpooling. On va 3-4 personnes ensemble, les soirs aussi. Oui, on est obligé.
Cette crise de l'essence a ainsi poussé Omar à lui aussi revoir ses trajets.
Avec la crise de l'essence, j'ai dû garer ma voiture pendant 2 mois. Je prenais des Uber ou des Bolt pour me déplacer.
Aujourd'hui, il n'utilise sa voiture que lorsque c'est nécessaire et les petits luxes de la vie d'avant-crise sont terminés. Alors qu'il rentre chez lui aux alentours de 17h, il n'y a pas d'électricité non plus. Alors, il monte les 9 étages à pied. Aujourd'hui, c'est plus du 3/4 des Libanais qui sont sous le seuil de pauvreté. La révolution d'octobre 2019 et les contestations qui s'en ont suivies contre la crise économique et financière n'ont pas réussi à changer quoi que ce soit dans le pays. Et les Libanais résignés s'adaptent à un nouveau quotidien de plus en plus difficile.
Clotilde Bigot avec des notes jouées par Omar que vous entendiez dans ce sujet. Omar, pas découragé par l'absence d'ascenseur et qui joue de la musique chez lui. Merci à lui pour ces quelques notes et pour son témoignage. Merci également à Clotilde Bigot, donc notre consoeur, pour ce reportage. Un reportage qui clôt Vue d'Allemagne pour cette semaine. On se retrouve à la même heure, au même endroit, la semaine prochaine. Et d'ici là, en podcast pour les anciens numéros sur notre site dans la médiathèque. D'ici là, eh bien, alles Gute, portez-vous bien, bis bald et à très bientôt. Tschüss!